Merci beaucoup. Je remercie Pierre-Michel Menger de cette invitation qui me fait un immense plaisir, moi aussi, hein, de présenter des recherches face à une salle pleine. C'est vraiment un immense plaisir de renouer ainsi avec une pratique qui nous importe tant dans notre métier d'enseignant-chercheur. Alors, ma communication portera sur les relations dynamiques entre galeristes, artistes et d'autres acteurs privés et publics qu'on va voir apparaître aussi, qui tous interviennent dans la construction de la valeur des œuvres. Je voudrais montrer concrètement, très concrètement, vous allez voir, comment cette valeur artistique des œuvres est co-construite par une pluralité d'acteurs aux rôles distincts qui agissent ou qui plutôt interagissent et forment une chaîne de coopération non dépourvue de tensions, visant à l'accumulation d'indices de qualité d'une part et d'autre part en symétrie en quelque sorte à la réduction maximale des incertitudes sur la valeur qui sont inhérentes au statut de l'œuvre d'art, a fortiori des œuvres récentes. Mon travail est celui d'une historienne qui, pour étudier des comportements et pour étudier la nature des interactions qui les caractérisent, explore les archives, les croise et tente de les faire parler de manière à donner à ces comportements une variété de caractérisations et de significations. Je dialogue évidemment avec les historiens d'art, les économistes, mais aussi et peut-être surtout avec les sociologues. Et je voudrais dire ici tout ce que mon travail doit, moi aussi, hein, à celui de Raymonde Moulin, qui est la première à poser en sociologue des questions que je me suis reposées quelques décennies plus tard lorsque j'ai choisi de consacrer mon doctorat aux galeries d'art parisiennes après la Seconde Guerre mondiale. Dans le marché de la peinture en France, son premier opus, elle a des formules assez percutantes qui peuvent d'ailleurs se lire et se relire hein, tant dans l'écriture de Raymonde Moulin, le second degré, les significations implicites sont assez intéressantes. J'en retiendrai une qui me semble tout à fait caractéristique aussi. Le marché des tableaux est le lieu de cette secrète alchimie qui opère la transmutation d'un bien de culture en marchandise. De la part d'une sociologue de l'art, c'est assez cocasse, je trouve, comme définition, et en même temps, ça va nous dire beaucoup de choses. Alors, cette alchimie, Raymonde Moulin l'a observée chez Daniel Cordier, notamment, qui a été l'un de ses informateurs, l'un de ses contacts pour réaliser ce qu'on appellerait aujourd'hui son terrain dans le monde des marchands d'art parisiens. Et c'est justement sur Daniel Cordier que j'ai choisi de faire porter ma communication. Daniel Cordier est un acteur très singulier de ce monde professionnel des marchands d'art parisiens. On pourrait le qualifier de franc-tireur, ça ferait référence également à ses activités de résistant pendant la guerre. Mais en même temps, donc, une singularité et un comportement qui semble tout à fait à même d'ouvrir avec une grande richesse des perspectives sur cette question de la co-construction de la valeur artistique. Daniel Cordier est né en 1920. Il est mort l'année dernière à l'âge de 100 ans. Il est très connu, évidemment, pour s'être engagé dans la résistance à l'âge de 20 ans, avoir été sous le pseudonyme de Caracalla, l'assistant de Jean Moulin, dont la couverture était celle d'un artiste et marchand de tableaux romanin. Cordier a écrit des milliers de pages sur cette expérience, sur sa découverte de l'art à la Libération, et un petit peu moins de pages, mais beaucoup de choses sont à paraître, sur sa volonté de devenir artiste juste après la Libération, le fait qu'il ait appris la peinture en s'inscrivant à l'atelier de la Grande Chaumière, le fait qu'il ait exposé des œuvres d'art dans une galerie de l'époque tenue par Suzanne de Conincq en 1955, mais surtout qu'il ait fréquenté assidûment certains artistes et qu'il ait commencé à acheter des œuvres pour lui-même. Sa première toile, il l'achète en 1946. Elle est exposée au Salon des Réalités Nouvelles, et elle est signée Jean Devannes. Et il achète aussi pour les autres. Il commence assez tôt à se mêler de marché de l'art, même s'il ne reconnaît que à contre-cœur, en faisant du courtage, ce qui est assez courant pour débuter lorsqu'on est un aspirant marchand au début des années 50. Daniel Cordier anime successivement deux galeries à son nom à Paris entre 1956 et 1964. Il s'occupe en outre de deux autres galeries à l'étranger, en Allemagne à partir de 1958 et à New York à partir de 1960. Son profil est celui d'un marchand ambitieux, déterminé, assez détesté d'ailleurs de ses collègues, ce qui est usuel dans ce milieu ultra concurrentiel et individualiste. Suite à la crise économique de 1962 et dans le contexte explosif de la victoire de Rauschenberg à la Biennale de Venise en 1964, Cordier ferme sa galerie parisienne avec une dernière exposition retentissante, 8 ans d'agitation. Vous voyez ici la vitrine de la galerie à cette occasion. Ces 8 années, elles sont donc au cœur de mes réflexions aujourd'hui. Et je vous propose de plonger dans les archives de la galerie, mais aussi celles des critiques et des artistes, pour dégager quelques éléments de caractérisation de leur relation et de leur collaboration au prisme de la construction de valeurs au sens économique et symbolique, entendue bien sûr comme une accumulation d'argent, de réputation et de notoriété, pour des œuvres dont l'un des points communs est le non-conformisme, la marginalité et l'inclassabilité. « Je me dirigeais, dit Cordier, vers les derniers de la classe, les insoumis, les solitaires. Que cela signifie-t-il pour le marché de l'art? Quelles stratégies collaboratives de promotion sont menées à leur endroit ?» Alors, j'évoquerai rapidement 3 aspects de ce comportement mêlant contrôle et collaboration, aspiration et contrainte empirique forte, en évoquant d'abord le style de Daniel Cordier comme collectionneur marchand. Ensuite, son désir de contrôler la production des artistes avec lesquels il travaille pour pouvoir en disposer. Et enfin, sa stratégie de mise en circulation qui associe étroitement exposition et valorisation. Et bien évidemment, dans cette présentation, beaucoup d'échos seront à entendre avec la présentation qui vient d'être faite par ma collègue Sophie Crass. Quel marchand, quel type de marchand Daniel Cordier incarne-t-il lorsqu'il ouvre sa galerie à Paris en 1956 ? Il se présente comme un collectionneur marchand et clairement, il se situe dans une sorte d'entre-deux entre un pôle commercial et un pôle militant. Le premier pouvant être incarné à l'époque par Aimé Mag, le marchand de Miro, de Calder, de Chillida, qui est un grand marchand. L'autre pôle, celui de l'art militant, de l'art d'avant-garde, pourrait être incarné aussi, ce sont des choix que je vous propose, par Denise René, qui dirige une galerie consacrée exclusivement ou quasi exclusivement à l'abstraction géométrique et à la promotion d'un groupe d'artistes dont elle est, en tant que galeriste, aussi la chef de file. La position de Cordier est très différente. C'est celle d'un collectionneur marchand qui est fortement déterminé par son entrée dans le microcosme du marché de l'art. Pendant 10 ans, durant la préhistoire de la galerie, il a mené donc une triple activité d'apprenti artiste, d'amateur collectionneur et d'apprenti marchand en pratiquant le courtage. Cette triple identité, il la poursuit, il la met au cœur de ses discours sur son rapport à l'art. Donc, beaucoup plus explicitement que d'autres, Cordier présente ses activités de directeur de galerie comme l'aboutissement de ses goûts personnels et de ses découvertes artistiques. Il est d'abord et avant tout amateur d'art, ami des artistes avant d'être marchand. Tout ceci est aussi une posture, discursive, bien sûr. Il multiplie les récits de visites d'ateliers dans un style gorgé d'enthousiasme et de dramatisation, visant à conférer à ces événements une dimension mythique. Ainsi, lorsqu'il raconte, en 1964, la visite qu'il a rendue à Louise Nevelson lors d'un voyage à New York, les indications assez proliférantes de son étonnement et de sa fascination suppléent finalement, à l'explicitation des œuvres. Il écrit « Je n'oublierai jamais la stupéfaction de ma première rencontre avec ces objets, dont l'entassement, faute de trouver des amateurs, encombrait les escaliers, les couloirs, les chambres et transformait la modeste habitation de Spring Street en une fête scabreuse. J'ai essayé, dans mon exposition de 1960, de reconstituer l'atmosphère inoubliable de cette première visite. » la fascination pour l'œuvre en train de se faire est mise au premier plan. Cordier, comme d'autres intermédiaires marchands et critiques d'ailleurs, se présente comme le témoin direct du processus de création, un témoin dont l'intimité avec l'artiste qu'il défend devient le gage d'une appréciation réfléchie, ce qui est évidemment une manière assez particulière de faire valoir son propre point de vue et son propre jugement, à l'opposé de toute posture universalisante ou objectifiante qu'on peut repérer chez d'autres marchands. Cela a une conséquence directe sur les relations entre artistes et marchands, ce sont des relations toujours bilatérales, le point commun entre tous étant l'intérêt singulier que Cordier, amateur, leur porte. Cela constitue d'ailleurs la meilleure définition de l'écurie, une expression, un terme qui est systématiquement utilisé pour parler des artistes qui exposent dans la galerie Cordier. C'est son écurie, cette métaphore hippique, est d'autant plus utilisée à cette époque que les individus concernés ne forment justement pas une communauté homogène du point de vue esthétique. La galerie devient le point de ralliement, et comme il s'agit d'une galerie de collectionneurs affirmant la primauté de son goût esthétique, c'est finalement Cordier le point de ralliement, l'élément de cohésion. La constitution de son écurie rend compte de l'évolution de son goût, de ses intérêts et de son désir de montrer les œuvres. Ce qui n'exclut pas tout de même l'importance de certains intermédiaires qui sont eux aussi des découvreurs de talents et qui font découvrir donc à l'amateur Cordier des artistes qu'il ne connaît pas encore. Un exemple parmi beaucoup d'autres, Édouard Jaguer, qui joue ce rôle d'entremetteur entre plusieurs artistes qui lui sont proches et le marchand Daniel Cordier. Jaguer est un poète, un dessinateur surréaliste, membre très actif du groupe La Main à Plume sous l'Occupation, et surtout un homme de revue. Il est devenu en 1948 le rédacteur français de la revue de Cobra, du groupe Cobra. Il a fondé en 1949 la revue Rix, dont vous voyez l'une des couvertures, puis en 1952 la revue Phase. Et en tant qu'écrivain d'art et directeur homme de revue, il fréquente amicalement et il suit et il accompagne la création de très nombreux artistes. Le jour de l'inauguration de la Galerie Cordier, le 16 novembre 1956, Jaguer se trouve présent au vernissage et il formule son admiration pour Claude Viseux, un des artistes qui est présenté par Cordier. Admiration commune donc avec le marchand qui va fournir un terrain d'entente et de discussion et qui va amener donc Jaguer à jouer un rôle dans l'élargissement du groupe des artistes attachés à la galerie Cordier. Il le raconte ainsi, « Je m'empressais de satisfaire à une curiosité, celle de Cordier, aussi légitime en lui parlant, par exemple, de toute une série d'artistes qui vont devenir des artistes importants de la galerie. Enrico Bage, Carlotto Goetz, Bernard Schulz, Eivind Falchrom, un Italien, deux Allemands, un Suédois, pour faire bonne mesure à un internationalisme qui nous était commun et qui est d'ailleurs le plus sûr garant de la vitalité de l'art d'avant-garde et même de l'art tout court. C'est Jaguer qui va établir des ponts culturels, pourrait-on dire, entre des amis artistes et un marchand d'art curieux, mais aussi donc entre Paris et l'Allemagne en reconstruction, entre Paris et l'Italie avant-gardiste. Comme marchand, quel rôle s'attribue Cordier ? La notion de contrôle est ici absolument centrale et essentielle. Entre le marchand et donc Cordier se situe entre le marchand et le galeriste à nouveau. Il veut contrôler l'œuvre, donc il contractualise sa collaboration avec chaque artiste, mais il n'est pas un grand marchand, il n'a donc pas les moyens d'acheter ferme contre des mensualités, donc de rémunérer l'artiste. Il met donc en place une forme hybride où le dépôt est la règle et l'achat l'exception. Le souci, principalement, durant les 8 années de son activité, c'est que les artistes avec lesquels il veut travailler, donc je mets quelques portraits ici, ont déjà presque tous des obligations contractées à l'égard d'autres galeries. La situation est délicate. Et c'est le cas d'Henri Michaud, de Jean Dubuffet, qui depuis quelques années travaille avec Paul Facchetti, un photographe et marchand d'art qui a ouvert une galerie en 1951. Ou encore de Roberto Matta, qui travaille avec la Galerie du Dragon, ou Hans Bellmer, qui est également proche de cette galerie. Donc, lorsque Cordier ouvre sa galerie, il doit s'entendre, dans un premier temps, avec d'autres marchands, et notamment Paul Facchetti, pour établir et partager l'exclusivité mondiale des œuvres des artistes qu'il souhaite représenter. Avec Henri Michaux, la situation s'éclaircit assez rapidement. Michaux prévient plusieurs galeries avec lesquelles il travaille, françaises et américaines, qu'il a un nouvel arrangement qui lui interdit de laisser ses œuvres en dépôt chez ses galeries. Il écrit « Je suis obligé de faire revenir toutes mes aquarelles invendues dont je suis à présent débiteur envers eux, Facchetti et Cordier, dans un premier temps, et puis au bout de quelques semaines ou quelques mois, seulement Cordier ». Cordier devient donc le marchand exclusif de l'œuvre plastique de Michaux et il lui propose un contrat qui repose sur un dépôt de toutes les œuvres, peintures, encre de Chine, gouache, aquarelle, dessin, de l'artiste à la galerie, laquelle se charge de la promotion, j'ai surligné quelques passages intéressants, production que Cordier s'efforce de vendre au mieux pour le compte de Michaux, en s'engageant un petit peu plus loin à ne négliger aucun effort pour assurer la connaissance et la diffusion de l'œuvre de Michaux. Et sur le prix de vente des œuvres, 25% seulement, c'est important aussi de le souligner dans le panorama de ce marché de l'art, avec des situations extrêmement différentes selon les artistes et selon les marchands, seul 25% du prix de vente revient à Michaux. Dans le cas de Dubuffet, les choses sont similaires mais plus complexes, car l'artiste veut absolument garder le contrôle de sa production et il a en 1956 une très longue expérience, alors de marchand de vin, on l'a dit, mais aussi d'artistes mettant en concurrence ces marchands, les uns avec les autres, et ayant signé une série de contrats conclus rapidement, rompus rapidement, avec un nombre important de galeries européennes. Mais Cordier veut l'exclusivité. Dubuffet lui refuse d'abord, et pendant quelques mois, Cordier et Facchetti collaborent pour l'Europe. Puis, Cordier obtient l'exclusivité de la vente des tableaux de Dubuffet en France et en Allemagne. À partir de 1958, Dubuffet devient le pilier de la galerie Cordier, qui est en pleine ascension, elle aussi, et l'ascension commune de la galerie et de l'artiste au plan international est tout à fait évidente. La galerie Cordier, qui ouvre d'ailleurs sa succursale allemande avec la présentation de la série L'Aube der Erde en décembre 1958, attaquant le marché germanique encore très peu ouvert à l'œuvre de Dubuffet. En 1960, Cordier inaugure sa galerie new-yorkaise avec également une exposition des dessins de l'artiste, prenant alors la relève de Pierre Matisse dans la commercialisation des œuvres de Dubuffet aux États-Unis, puisque l'artiste a rompu avec Matisse parce que ce dernier, selon Dubuffet, ne cherchait pas suffisamment à vendre les œuvres, mais au contraire les conservait, les stockait dans un lieu, dans un entrepôt. Cordier et Dubuffet sont sur la même longueur d'onde. Ils entendent privilégier la commercialisation plutôt que l'institutionnalisation. C'est un point commun qui explique beaucoup de leur entente. Dans cette perspective, la réussite est complète. À la fin des années 50, le prix des toiles de Dubuffet a atteint des sommets et la demande est si forte que les toiles récentes sont vendues avant même que soit inaugurée l'exposition. Avec d'autres artistes, les liens sont plus informels, plus intimes, plus chaleureux. C'est ainsi que Roberto Matta et Daniel Cordier sont amis. Ils passent une partie de leurs vacances ensemble, ils s'écrivent des cartes postales et ils ont une proximité amicale, des affinités personnelles extrêmement importantes. Aussi, la relation que le marchand développe avec cet artiste est-elle légèrement différente de celle qu'il a pu développer avec Michaux et Dubuffet. Néanmoins, la stratégie mise en place par Cordier est identique. Il fait en sorte que Mata résilie ses engagements envers ses autres marchands et que lui puisse, avec une série de contrats, s'assurer le contrôle de l'œuvre récente mais aussi ancienne de cet artiste comme de tous les artistes qu'il entend défendre. Aussi, donc, sans pour autant être en mesure de leur proposer un vrai contrat, un contrat classique des très grandes galeries par lequel les mensualités versées aux artistes sont non seulement des avances sur vente, mais des fractions d'un achat ferme de leurs œuvres engageant un transfert de propriété. Donc sans être capable de faire ça, Cordier cherche tout de même à obtenir une forme d'exclusivité en faisant le vide commercial autour des artistes, en leur proposant une série de mensualités qui sont des avances sur les ventes à venir. On trouve cette logique avec la plupart des artistes qui vont être exposés par Daniel Cordier. Certains refusent ou sont réticents par rapport à cette position du marchand. Et c'est notamment le cas d'Hans Bellmer, dont la correspondance avec Cordier montre une série de tensions, de frictions, de conflits qui sont assez intéressantes, puisqu'elle justement, elle repose sur le cadre contractuel de leur relation, mais aussi la question de leur territoire d'expertise réciproque. L'artiste Bellmer n'est sous contrat avec aucune galerie, mais il se sent tout de même une légère obligation avec un marchand de Chicago où il vend ses poupées. Cordier lui demande de se dégager de toute obligation et de commencer une collaboration avec donc, sa galerie, ce qui prend effet en 1960. À cette occasion apparaît déjà une caractéristique récurrente de leur relation. Bellmer a beaucoup de difficultés à se plier aux demandes pressantes de Cordier. Cordier qui veut des œuvres plus nombreuses, des œuvres d'un format plus grand, des œuvres jamais vues et surtout des œuvres à vendre. Enthousiasmé par les deux tableaux présentés dans cette première exposition collective de l'été 60, Cordier écrit en juillet à Bellmer « J'aimerais bien que vous me disiez comment marche votre travail et combien de temps vous estimez qu'il vous faudra pour faire, sans bousculade, les 40 tableaux nécessaires à une exposition de vous qui sera complétée par une quarantaine de dessins et de gouaches. » Bellmer répond en manifestant de l'intérêt et surtout de la prudence. Jamais il ne sera capable de produire 40 tableaux, tout au plus 20. Mais le reste de l'exposition, propose-t-il, pourra être composé de dessins, car, explique-t-il, j'ai doublé le format de mes dessins et en plus, j'essaye de m'habituer à cette craie noire qui tient mieux le mur. Bellmer poursuit alors toutes ses explorations graphiques du désir dans des dessins, des gravures où le corps est toujours plus désarticulé. L'exposition envisagée par Cordier en juillet 60 n'aura lieu que 3 ans plus tard. Ici apparaît, me semble-t-il, cette question délicate de l'intervention du marchand dans la création. Elle est indirecte, mais tout de même, dans les archives, et notamment dans les correspondances entre Daniel Cordier et ses artistes, on voit l'apparition de demandes, d'inflexions, d'effets retours de la demande marchande sur la création des œuvres. C'est absolument évident. Cette intervention du marchand, elle est encore plus forte, bien sûr, lors de la sortie de l'œuvre de l'atelier, quand il s'agit de lui donner un titre. Certains y résistent. Quand il s'agit de lui donner un prix, de l'accrocher, de la montrer. Autrement dit, les enjeux de sa mise en exposition, quand on réfléchit aux dynamiques de collaboration entre artistes et galeristes, sont absolument cruciaux. La conséquence néanmoins de la stratégie de contractualisation de Cordier est qu'il dispose d'un stock d'œuvres, qu'il peut montrer s'il le veut, quand il le veut et où il le veut. Aussi prépare-t-il des expositions avec soin, dans lesquelles, justement, l'intervention des artistes va se faire avec des degrés divers. Dans le cas de Bellmer, Hans Bellmer pose comme condition nécessaire à la réalisation finale de son exposition la capacité pour lui de décider de la scénographie, de l'accrochage. Donc il fait partie de ces artistes qui souhaitent garder la main sur la mise en exposition de son œuvre. Il imagine toute une série de dispositifs, pour reprendre l'expression qu'il emploie. Il a conscience aussi de l'opportunité que représente cette exposition personnelle, mais il écrit à Accordier. Nous n'avons pas reparlé de la nécessité d'exposer des choses qui n'intéressent guère la vente, mais qui seront indispensables pour donner au public une image de l'ensemble de mes activités, gravures et lithos, et 3 ou 4 tableaux empruntés à des collectionneurs, cela sera aussi important que la présentation poupée. Là apparaissent les limites de la collaboration. Cordier n'est absolument pas aussi sensible que Bellemare à ces enjeux de représentativité, à ces enjeux de compréhensibilité de la démarche de l'artiste. Et il est très réticent à exposer des œuvres qui ne sont pas à vendre. En revanche, il y a un consensus entre les deux. Le critère de réussite de l'exposition est qu'elle soit vue par un maximum de monde et qu'elle soit une contribution décisive à la réputation internationale de l'artiste. Aussi, Cordier soigne-t-il et demande-t-il à Bellemare de soigner le catalogue de son exposition. Aussi, les employés de la galerie sont-ils chargés de compter chaque jour le nombre de visiteurs qui viennent et de faire une liste des visiteurs importants qui viennent assister, qui viennent visiter l'exposition. Mais aussi, cette volonté de faire circuler les œuvres qui apparaît dès le départ, et notamment donc pour les œuvres de Bellemare comme celle de Dubuffet. On le voit ici à travers cet exemple, on pourrait le voir à travers d'autres sur lesquels je ne m'étendrai pas. Le catalogue est évidemment un outil essentiel. L'autre outil est celui de l'organisation d'expositions international. Et Daniel Cordier va être celui qui, justement, apporte à ces artistes qui sont dans leur grande majorité des artistes parisiens une capacité à faire circuler les œuvres en s'appuyant sur des réseaux de collaborateurs marchands. Donc, ce sont d'abord ses propres galeries succursales, celles de Francfort et celles de New York, mais aussi d'autres galeries partenaires qui sont installées à Londres, à Milan, à Amsterdam, et qui vont reprendre des expositions quasiment clé en main pour présenter dans ces capitales européennes et en Amérique du Nord les artistes de la galerie Cordier. Cordier met énormément d'énergie à organiser cette circulation internationale des œuvres. Alors, l'effet maintenant de cette action est celle est un effet de valorisation. Et là, se pose cette question de l'appréciation de l'action du marchand dans la hausse des prix de ces artistes. Clairement, Daniel Cordier considère que la hausse de la cote, alors ce que lui appelle la cote, c'est la hausse du tarif négocié avec l'artiste lors de son premier marché, lorsque de la première mise en vente de ses œuvres, évolution doit être le reflet du succès et donc de l'effet de réputation, l'effet cumulé de réputation et de notoriété de l'artiste. Chaque année, les tarifs sont renégociés avec les artistes avec lesquels il y a un contrat. Et on peut donc, en reconstituant minutieusement dans les archives l'évolution de ces prix, montrer combien, entre 1958 et 1962, la cote des artistes, le prix des œuvres, qui est effectivement extrêmement fragmentaire, puisqu'il s'agit de transactions très différentes les unes des autres en fonction de la taille des tableaux, de leur date, de la monnaie aussi dans laquelle la transaction s'est effectuée. Donc tout ça est très fragmentaire. Néanmoins, tout ceci montre une croissance forte du prix des tableaux, qui finalement est à l'image de la croissance générale du prix des œuvres d'art à Paris à ce moment-là. Et au-delà de ce tableau de chiffres, les archives de la galerie montrent combien Daniel Cordier cherche à placer les œuvres, les placer dans des collections privées importantes, suisses, américaines, et puis de plus en plus les placer dans les musées. L'un des enjeux pour le marchand, constructeur de la valeur artistique des œuvres qu'il défend, est l'institutionnalisation, n'en déplaise à certains comme Dubuffet. Il s'agit d'intéresser les musées français et étrangers à l'acquisition d'œuvres, de faire entrer les artistes au musée. C'est ainsi que la composition d'Henri Michaux de 1956 est achetée par la Société des Amis du musée de Saint-Étienne pour rejoindre les collections extrêmement en pointe à cette époque-là du musée de Saint-Étienne. C'est également de la même manière que la toile importante de Matta, However, de 1947, est acquise par le Stedelijk Museum d'Amsterdam pour 25 000 nouveaux francs en 1961 et figure à ce titre parmi les fleurons de l'exposition Matta de 1964 que Daniel Cordier a contribué à organiser en partenariat avec Eddy de Wilde, le directeur du musée. Je conclurai en citant cette phrase de Daniel Cordier. Le danger pour un marchand de tableaux qui aime la peinture et de devenir un commerçant, de perdre tout contact avec ce qui a été à l'origine de son entreprise, l'amour de l'art. Et c'est bien ce qui se profile hein, lors de la fermeture retentissante de sa galerie parisienne en juillet 1964, suivie quelques mois plus tard par son retrait complet du marché de l'art. Ces 8 années de commerce de tableaux, pour Cordier, selon Cordier, l'ont éloigné des plaisirs bien plus intenses de la découverte, de l'acquisition et de la contemplation de ses œuvres. Il a plusieurs fois, dans des entretiens, évoqué cette douleur d'être marchand, donc comme s'il y avait deux Cordiers qui entraient en conflit, surtout dans les dernières années. Il se réinvente lui-même, il réinvente cette activité de promotion ensuite, en devenant mécène et en devenant un donateur pour les collections publiques. Alors, les quelques éléments que j'ai évoqués ici très rapidement sont évidemment très particuliers. Ils concernent un marchand collectionneur assez singulier et quelques artistes, des critiques et des acheteurs avec lesquels ce marchand a interagi durant une période de temps somme toute très limitée. Ils permettent néanmoins, me semble-t-il, de comprendre combien les relations entre un directeur ou une directrice de galerie et un artiste ou un groupe d'artistes dépassent très largement la dimension de la transaction économique pour toucher à bien d'autres aspects, en particulier la présentation des œuvres textuelles et visuelles, leur circulation, leur appellation et leur qualification, mais aussi leur réalisation. Et combien, finalement, le marchand d'art est un acteur intégré dans une chaîne d'acteurs culturels. Les artistes, on parlait tout à l'heure d'amont et d'aval, hein, en amont les artistes, en aval peut-être les critiques, les collectionneurs et les conservateurs. Néanmoins, j'insisterai en conclusion sur cet effet de boucle que l'on a pu voir à travers certains documents qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, la construction de la valeur des œuvres, que ces acteurs d'ailleurs l'admettent ou pas, me semble un processus éminemment collaboratif. Je vous remercie.